Bien, bonjour à toutes et à tous. Et merci Seigneur de nous avoir conduits en ce lieu et merci au Seigneur pour sa présence parmi nous. Le thème de notre réflexion de cet après-midi, c'est « Découragé, il restaure mon âme ». Et nous avons une phrase dans le verset, les versets que nous venons de lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et en même temps, il restaure mon âme, il me conduit. Et même si... Au verset suivant, il est question de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, avec tout ce que ça peut représenter. Hein. Dieu est avec nous. Malgré tout ce que nous connaissons sur la parole de Dieu, il arrive malheureusement et parfois que nous soyons découragés. Nous n'arrivons pas à nous appuyer sur notre foi avec suffisamment de force et de détermination pour chasser ce découragement. Alors, il y a différentes sources qui amènent au découragement. Ça peut être la fatigue peut entraîner un découragement. On n'a plus envie, on n'a plus de goût. Une épreuve peut nous décourager. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et à chaque fois, c'est je. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment faire. On a juste oublié de nous adresser à celui qui nous guide, nous conduit, nous dirige, nous restaure. Alors cette vision lors de découvertes archéologiques, voilà, on rentre dans une grotte et puis on devine à peine quelques traits et puis on dit tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors les archéologues avec personnes qui sont en charge de ça vont faire une restauration. Elles vont redonner vie, figure, à ce qui était caché par la poussière. Est-ce que nous sommes assis sur un champ de ruines, sur notre existence, sur notre passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a de la poussière partout et on ne voit plus l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Créateur? Parce que le tableau de tout à l'heure, il a fallu que quelqu'un le crée. Est-ce qu'on vit avec nos vieilles blessures? Parfois, même et surtout, celles dont on n'ose pas parler. Des blessures profondes, des blessures intimes. Peut-être on est rongé par un sentiment de culpabilité. Alors on souffre en silence. Peut-être même on a honte. On a honte d'en parler. On se dit mais on peut en parler à personne. Parce que personne ne pourra me comprendre. Et on arrive même au point de se cacher. Ou de se cacher derrière la poussière. Eh bien comme David, il faut s'attendre à notre Dieu. Il restaure mon âme. Et il restaure toutes les âmes de toutes les blessures. La victoire éclatante de Jésus sur le péché, le diable, la mort, la souffrance, nous montre et nous apporte restauration complète de notre âme. Il nous rétablit, il répare, il colmate, il ponce, il coupe, il remet, il recolle, il revernit. Si une tempête soudaine s'est abattue, est venue nous briser, Dieu s'engage à remplacer ce qui a été cassé, détruit, peut-être perdu. On pense que cela ne reviendra plus. Mais cela ne reviendra plus, c'est notre dimension humaine, c'est pas la dimension de notre Dieu. Pour ceux qui sont curieux, souvenez-vous et rappelez-vous de l'histoire de Job. Tout ce qu'il a perdu, Job. C'est impressionnant. Et regardez tout ce qu'il a récupéré après. Il faut le croire, il faut le vivre. Dieu peut entièrement nous reconstruire et nous restaurer. Peut-être qu'en nous entendant prier, chanter, rire, on ne peut même pas soupçonner ce qui s'est passé. Parce que Dieu a fait son travail de restauration. Est-ce que peut-être, à un moment donné, moi ça m'est arrivé, hein, si je dis ça, c'est du vécu, hein. Vous est-il déjà arrivé de croire qu'il est plus facile de mourir que de vivre? Et là, on a un exemple. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4, il s'assit sous un genêt, sous un arbre, et demanda la mort, en disant, « C'en est assez, c'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, reprends-moi, j'en peux plus. Je me suis écroulé dans la vallée de l'ombre de la mort, car je ne suis pas meilleur que mes pères, » a-t-il dit. Après quelques jours de marche dans le désert pour sauver sa vie, menacée, Élie s'arrête, le prophète Élie s'arrête, complètement épuisé. Épuisé physiquement, hein, la marche, le manque de nourriture, et il est épuisé aussi moralement. Il ne voit pas le bout du tunnel, la sortie de la vallée. Oubliant ses exploits d'hier, parce qu'il a été glorieux et victorieux, il se laisse vaincre par un profond sentiment d'échec et il sombre dans la dépression. Il est complètement découragé. La situation est sans espoir, pourrait-on dire. Dans son égarement, Élie oublie la source de sa force, celui qui lui avait donné victoire. Sa vision du monde extérieur, elle est complètement faussée. Il ne voit plus qu'au travers de son malheur. Et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il imagine, c'est du négatif. Rien de bon ne peut être tiré de tout ce mauvais. Et puis le « pourquoi cela, ça m'arrive ?» en même temps, on fait le caliméro. Pour lui, il n'y a aucune idée possible, aucune issue possible, pardon. Plus d'espoir. Peut-être est-ce que nous avons laissé, nous, à un moment donné de notre vie, une situation monter et devenir tellement haute devant nous, insurmontable, qu'on a l'impression de ne pas pouvoir passer au-dessus. Peut-être faut-il voir que si on ne peut pas passer au-dessus, on peut passer en dessous ou on peut passer sur le côté. Est-ce qu'on a l'impression que c'est insurmontable? À mes yeux. Mais aux yeux de Dieu, est-ce que c'est insurmontable? Croire qu'il est plus facile de mourir que de vivre. L'accumulation d'événements douloureux peut avoir des conséquences néfastes sur l'état de notre âme, pas que sur notre corps, mais sur notre âme aussi. Une âme qui est abattue, qui souffre, qui s'affaiblit, moralement et physiquement, l'être se détériore. Mais quelqu'un peut restaurer mon âme. Là, nous avons Élie, une âme abattue, un homme qui souffre. Il est couché, il s'endort, il n'en peut plus. Non seulement il n'en peut plus, physiquement, mais il n'en veut plus, moralement. Et quand on n'en peut plus et qu'on n'en veut plus, c'est terrible. C'est terrible, parce que qu'est-ce qui reste? Élie décide de s'endormir, il réclame à Dieu la mort, il tente peut-être d'oublier les pressions. Hein, parfois le sommeil, on a l'impression qu'en se réfugiant dans le sommeil, tout va disparaître, mais au réveil, tout réapparaît avec une journée de plus. Dieu, lui, ne sommeille pas, ni ne dort. Et il envoie même un ange réveiller le prophète, qui lui dit, quelques versets plus loin, « Lève-toi et mange. » L'ange de Dieu ne lui dit rien d'autre que soit « Lève-toi et mange. » Commence par le commencement. Renouvelé et fortifié par cette nourriture miraculeuse, Élie reprend sa marche et va de l'avant avec une force nouvelle. Il aurait pu dire encore une fois à l'ange, laisse-moi tranquille, laisse-moi mourir. Mais il s'est laissé convaincre que la fin n'était pas là. Dieu n'est-il pas capable de restaurer notre âme? De te dire, mais dis, lève-toi et mange. En plus, toi qui es dans la restauration, ça ne va pas trop être difficile, lève-toi et mange. Hein? Mais voilà, lève-toi et mange. Comprends que je suis là pour restaurer ton âme. Alors nous avons besoin de demander pardon à Dieu de cela, de ce genre de situation dans lequel nous nous sommes laissés embarquer. C'est comme si on était parti dans une barque à la dérive. Il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de voile. Et là, on va où les vents et les courants nous emmènent. On a juste oublié que Dieu était et pouvait être notre gouvernail. Je me suis réveillé malade ce matin. Enfin, en l'occurrence, c'était même la semaine dernière. Je ne tiendrai jamais jusqu'à la fin de cette journée. Et là, je vais vous parler d'un petit aspect qui s'appelle se parler à soi-même. Je me rappelle que je me moquais de ma mère quand je l'entendais, ou de mon père, quand je les entendais parler tout seul. Ah, tu vois, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, donc voilà, je vais faire comme ça, là. Je dis, tiens. Pff, on a l'impression qu'on avait en face de quelqu'un qui commençait un petit peu, pas déliré, mais presque. Alors nous n'avons peut-être pas l'habitude de parler à nous-mêmes, ou de parler à haute voix. Bon, moi, j'ai l'habitude de parler à haute voix. Voilà, quand je suis à la maison, bon, Jean-Michel, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ta 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 ta. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Tiens, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se parle, on sort des questions, on sort des phrases, mais est-ce qu'on se répond? Est-ce qu'on fait la conversation? Oula, vous allez dire, où est-ce qu'il nous emmène? Non, on part pas en psychiatrie, vous rassurez-vous. Le psalmiste, dans le psaume 42, ressentait un profond chagrin. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mais il se parlait aussi à lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Voilà, on va se retenir. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es en train de, à quoi es-tu en train de penser? Et pourquoi tu penses cela? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42. Dans les Lamentations aussi, le prophète fait la même chose. Il a vécu une immense épreuve. Il est là, fatigué. Il a l'impression d'avoir perdu tout espoir, comme notre prophète Élie. Alors il se lamentait du péché du peuple. En plus, il se lamente pour les autres. Et du jugement de Dieu qui en découle. Il exprime son désespoir. Tu m'as enlevé la paix. Tiens, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Enlever la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Waouh. C'est limite, je ne crois plus en Dieu. Parce que si un jour on dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, on ne peut plus s'attendre à rien. Comment Dieu peut-il restaurer mon âme? En disant, mais Seigneur, toi-même, c'est même pas possible. Mais non, il n'en est pas resté là. Il a exprimé son désespoir. Il a mis des mots sur les profondeurs de son chagrin, de sa douleur. Et il s'est ensuite remémoré ce qu'il savait être vrai. Il s'est réapproprié des vérités bibliques. Et bien, je relis mon psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'un berger... Vous savez, il suffit de regarder des reportages, même de regarder un troupeau, quand il voit le berger, ça fonce, ça le suit. Peu importe, le berger va à gauche, le troupeau va à gauche. Le berger va à droite, le troupeau va à droite. Voilà. Et en plus, je ne manquerai de rien, parce qu'il va m'emmener là où il sait qu'il y a de la bonne nourriture, là où il y a de l'eau, là où il y a de l'abri, là où il y a de la bonne température, et ainsi de suite. Et même s'il fait sombre, même s'il fait froid, je sais qu'il est là pour me guider. Alors, quand il s'est remémoré tout ce qu'il savait être vrai, eh bien, l'espoir renaît. Quand l'espoir renaît, c'est-à-dire qu'on laisse Dieu commencer sa restauration. Alors, un tableau, parce que tout à l'heure on parlait de tableau, ça ne se restaure pas en un clin d'œil. Il faut de la persévérance et il faut du temps. Parfois, ça peut aller très vite, mais parfois, ça peut prendre du temps. Le temps de Dieu, Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est comme si notre vie, c'était une voiture. Hein, vous mettez de l'essence dans la voiture, maintenant, ça va être, vous la rechargez électriquement, n'est-ce pas ? Et vous en servez toute la journée. Arrivé à la fin de la journée, il y a moins d'énergie. Et bien, pendant la nuit, le Seigneur restaure, nous restaure. À condition qu'on ne lui ait pas dit, il y a plus d'espoir. Et là, le Seigneur va nous dire, bah, ok, bah, écoute, s'il n'y a plus d'espoir, vois ce que tu sais faire. Montre-moi. Et là, ça va être... Vous connaissez la spirale descendante ? Jusqu'à ce qu'on se dise, jusqu'à ce qu'on se laisse guider par cette voix, lève-toi, prends des forces. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, Paul parle de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Lorsqu'on se sent submergé, stressé, inquiet, effrayé, désespéré, découragé, nous avons besoin de nous répondre à nous-mêmes. Qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi tu es comme ça ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, tu te lèves, tu n'as envie de rien. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être j'ai juste envie de me reposer. Ok. T'es fatigué, t'as bien bossé, t'as fait des gros efforts. Là, tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de recharger tes batteries physiques. Mais c'est pas pour ça que tu vas déprimer. Là, on est dans un besoin naturel. Mais si je me lève un matin et j'ai envie de rien, mais en plus j'ai des pensées noires, là, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe ce matin, Jean-Michel ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je me regarde dans la glace, je vois que j'ai une sale tête. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin ? Pourquoi t'es comme ça ? À quoi tu penses ? Ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Eh ben, on va prier. Seigneur, voilà. T'es avec moi devant le miroir, t'as vu la tête que j'ai. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur ? Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Prends le dessus et restaure-moi. Et il faut laisser le Seigneur te restaurer. Ah oui, je me rappelle, ah oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il renouvelle mes forces chaque matin. Nous avons besoin de nous prendre en main. Nous avons besoin de nous adresser à nous-mêmes. Nous avons besoin de nous questionner, comme on vient de faire. Nous avons besoin de nous répondre bibliquement parlant. Pas autrement. Je vais aller voir je vais lire mon horoscope, je vais aller voir une voyante. Non. Là, on s'égare. Et au lieu de murmurer ma détresse, au lieu de murmurer, de ressasser, broyer du noir, ben on va demander à notre Dieu de restaurer notre âme. C'est pas un péché d'être découragé. Attention. Mais il ne faut pas rester dans cet état-là. Quatre choses qui vaut la peine de se remémorer, d'y penser et de s'appuyer. Nous devons nous rappeler que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu contrôle toutes choses. Il tient le monde dans ses mains. Rien ne se produit en dehors de sa volonté. Il n'est pas surpris par nos circonstances. Il connaît notre vie. Et il regarde, il nous observe, comment nous réagissons. Ce qui nous arrive, tout à l'heure on parlait de chance et de hasard. Donc tout ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas. C'est quand on ne sait plus quoi dire, plus quoi faire, qu'on dit « Ah, quelle chance !» Bon, là c'est une expression, mais « Ah, la chance !» Si elle pouvait me sourire, ah bon ? Et « Ah, mais ça c'est... » Alors quel hasard ! On a juste oublié la main de Dieu au travers de tout cela. Se rappeler que nous sommes en Christ, Et nous sommes une nouvelle créature. Nous devrions nous rappeler qui nous sommes en Christ. Parce que Christ nous a rachetés de nos péchés. Nous ne sommes plus esclaves de nos péchés. Esclaves. Ça ne veut pas dire que le péché ne dort pas à notre porte, à nos pieds. Mais nous ne sommes pas esclaves. Il ne prend pas possession sur nous. Il ne prend pas position sur nous. Nous sommes ses fils et ses filles adoptives. Dieu nous aime comme il aime son fils. Dieu nous regarde. Dieu nous guide. La houlette et le bâton pour nous guider. Parfois, on a besoin d'un petit coup de bâton. C'est pour avancer dans le droit chemin. En Christ, nous sommes maintenant les héritiers de son royaume. Il faut se rappeler aussi le caractère de Dieu. Dieu est bon. Dieu est saint. Dieu est juste. Et je dirais même, c'est le seul bon, le seul saint et le seul juste. Et hors lui, il n'y en a pas d'autre. Surtout pas moi. Je ne peux pas me restaurer moi-même. Par contre, je peux faire en sorte qu'en priant, qu'en lisant la parole, qu'en laissant Dieu agir, je laisse Dieu restaurer mon âme. Mais moi, je ne me restaurerai pas. Je ne suis pas auto-réparateur. Voilà, il y a auto-entrepreneur, voilà, c'est pas auto-réparateur. Dieu est tout-puissant. Il est fidèle à jamais. Nous ne sommes pas fidèles à jamais. Mais Dieu est fidèle à jamais, en toutes choses, en toutes circonstances. Il est plein de grâce, il est miséricordieux et bon. Jésus dit qui m'a vu a vu le Père. Et relisez les évangiles, vous verrez Dieu au travers de Jésus. Et il faut se rappeler enfin, dernier point, les promesses de Dieu. Ah ben voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça c'est une promesse. Il restaure mon âme. Ça c'est une promesse. Il n'y a que des promesses là, dans le psaume 23. Comme Élie, nous devrions nous souvenir, ah oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, je sais que Dieu a agi. Ah, puis c'est vrai, là, dans une autre circonstance, c'est vrai, Dieu a agi. Puis il y a aussi toutes les circonstances, on a évoqué ça tout à l'heure, toutes les circonstances dans lesquelles on n'a pas capté que c'était un miracle de Dieu. Ça paraissait évident, voilà, un petit coup de hasard, un petit coup de chance. Ben non, Dieu avait agi. Il a promis le salut pour quiconque invoque son nom. Il est toujours avec nous. Il se lève avec nous, il s'endort avec nous, il passe la nuit avec nous. Il a promis de ne jamais nous quitter, de ne jamais nous abandonner. Jamais. Quel homme ou quelle femme pourrait dire à quelqu'un « Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te quitterai jamais. » Je ne sais pas si on est capable de tenir ce genre de promesse. Et il nous entend quand nous crions à lui. Il ne nous dit pas, mais qu'est-ce qu'il a encore à crier, qui va pas et tout. Encore lui? Et non, Dieu ne dit pas ça. Dieu écoute. Écoute celui qui crie vers lui. Il pourvoira à tous nos besoins. Et il nous a promis l'éternité avec lui dans le ciel. Donc la prochaine fois que nous devons faire face à une épreuve, quelle qu'elle soit, qui nous trouble, qui perturbe nos pensées, qui suscite notre incompréhension, nos doutes, nos craintes, nos peurs, qui génèrent du stress. Alors on rejoint un peu hein, quand on avait parlé de la paix. Voilà, tout ça c'est des facteurs pour nous couper de la paix. Et quand on est hors la paix de Dieu, on n'est pas en communication. Même si on est en 4G, hein, ça ne marche pas. Même si on a la fibre, ça ne marche pas. Quand la communication elle est coupée avec Dieu, elle est coupée. Mais c'est nous qui nous mettons en stand-by. On pense qu'on essaie de communiquer, mais en fait on communique mal. On n'utilise pas le bon canal. On n'utilise pas la prière. La prière suscitée par le Saint-Esprit. Donc la prochaine fois que nous nous retrouvons dans ce genre de situation, ou même parfois jusqu'à dire complètement découragé, je ne m'en sortirai jamais, je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas le bout du tunnel, la vallée de l'ombre de la mort. On en a tous eu des situations comme ça. On ne savait vraiment pas où, la lumière, à quel moment elle allait jaillir. Eh bien, proclamons la vérité. Proclamons la parole de Dieu. Dieu, tu es vrai, tu existes. Tu es juste, tu es bon, tu es saint. Tu es paix, tu es amour. Prêchez-vous l'évangile à vous-même. Hein, se parler à soi-même. Ce n'est pas la psychiatrie, hein. Pas du tout. Hein. C'est être capable d'analyser ce qui se passe, même si on n'arrive pas bien à l'analyser, mais dire ce qui se passe. Je ne comprends pas. On a le droit de dire à Dieu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas où aller, j'en sais rien. Et confiance. Recherche la paix avec Dieu et il pourvoira. Souvenez-vous quand on avait parlé de la sagesse de Salomon. Hein ? Rappelez-vous de l'espérance que nous avons grâce au Seigneur Jésus. Souvenons-nous de cette espérance. Alors, découragé, il restaure mon âme. J'espère qu'en quittant ce lieu, nous n'allons pas, parce que je me sens concerné hein, quand même, hein, nous n'allons pas prendre sommeil ce soir avec un sentiment de découragement. Mais non, je nous souhaite de dormir ce soir comme des petits bébés, comme des petits enfants. Petit enfant, une fois qu'il a mangé, qu'il a bu, qu'il est propre, ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous laisser sa place. Hein. Et bien voilà, ce soir, avant de fermer les yeux, Seigneur, waouh, j'ai bien dormi, hein, grâce à toi. Amen.